Dit ceci en 2 Corinthiens touche à la maladie, la mort, la désintégration biologique. Et Paul lance cet avertissement que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Le corps, l'homme extérieur, est mortel. Le verset de la Genèse, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière, ne s'adressait pas à l'âme. Il est évident que si ceux qui nient la double nature de l'être humain ont raison et que l'homme n'a pas d'âme, d'esprit, il est ridicule de parler ou même de penser à une nouvelle naissance. Prenez les paroles suivantes. Dieu détaille la partie de l'homme sujette à une nouvelle naissance. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il est donc vain de ne considérer l'être humain uniquement que sous son aspect matériel, car la vérité veut qu'une partie de ce dernier peut naître de nouveau. Et le Fils de Dieu dit encore, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Remarquez que Jésus ne dit pas que la naissance de l'Esprit est comparable à l'action du vent. Il fait simplement ressortir que la partie de l'homme sujette à la nouvelle naissance ressemble au vent. Il n'est pas possible de voir le vent. Seuls ses effets nous prouvent sa réalité. L'herbe se couche, les branches des arbres remuent, et la surface de l'eau frissonne. Tel est l'esprit de l'homme, à la seule différence que les preuves de son existence en l'homme sont visibles. La mort physique n'apparaît que lorsque l'esprit se sépare du corps. Jacques le dit, le corps sans âme est mort. L'esprit humain, qui se compare parfois au corps, est la partie pensante de l'individu. L'esprit fait dire à l'épistolier aux Hébreux, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Un jour, Jésus demanda à certaines personnes, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Ce cœur ou esprit, non seulement pense, mais il est aussi capable d'aimer. Le Fils de Dieu ne dit-il pas que le plus grand des commandements est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée? De plus, le cœur de l'être constitue cette partie capable de prendre des résolutions ou de s'assigner un ou plusieurs buts. Naître de nouveau est essentiel car notre cœur peut nombre de choses, y compris se laisser littéralement capturer par le péché au point d'en devenir esclave. Et le Seigneur le dit explicitement. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent leurs mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Paul lui aussi, dans son épître adressée aux Éphésiens, cite le mauvais exemple de la conduite dissolue des païens du premier siècle qui marchent selon la vanité de leurs penchants. Il en donne la raison première en clamant. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour connaître toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. La nouvelle naissance devient essentielle lorsqu'on réalise combien l'homme peut tomber bas. Il doit donc se transformer, se détourner de cette vie d'indulgence sensuelle, de moralité extensible, pour en venir à contrôler tout naturellement ses instincts et s'engager dans une spiritualité profonde. Il doit s'éloigner de ses tendances égocentriques pour se dévouer à une cause la plus noble qui soit, celle de Dieu et de l'humanité. D'après Paul, il doit y avoir renouvellement de l'esprit. Il faut, dit-il, être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. La nature de l'homme est telle que la nouvelle naissance que Jésus rend vitale devient possible précisément à cause du fait que l'être humain est doté d'un esprit qui peut être éduqué, réformé, transformé, pour être enfin rendu conforme à l'image spirituelle du Fils de Dieu. Dans l'Épître aux Colossiens, les Écritures nous exhortent à nous dépouiller du vieil homme et de ses œuvres pour nous revêtir d'un homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. La modification que cette nouvelle naissance opère en nous ne concerne en rien l'être extérieur. La renaissance d'une partie charnelle de l'être est impossible, et nous le savons tous. Une nouvelle naissance de l'esprit de l'homme est non seulement possible, mais essentielle. Elle nous ouvre des horizons spirituels insoupçonnés. Vivre avec et pour Dieu est une existence qui peut difficilement se décrire, tant elle est différente, édifiante, enrichissante, et cela à chaque instant de la vie. Lors de son entretien avec le pharisien Nicodème, Jésus enseigne « en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Cet enseignement si limpide va se répéter tout au long du ministère public du Seigneur. Et le jour de son ascension, Jésus confie encore à ses disciples une mission solennelle entre toutes. « Allez, leur dit-il, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Marc, quant à lui, rapporte cette même scène saisissante en témoin qu'il est, mais en des termes sensiblement différents. « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Comme on peut le voir, nous nous trouvons ici devant un ordre du Seigneur auquel personne ne peut échapper. Et cependant, le baptême qui est aujourd'hui conféré dans le monde par quelques gouttes d'eau et des paroles incantatoires est réduit à une sorte de rituel magique, et non à l'immersion totale dans l'eau des adultes précédée de la foi et de la repentance telle que Jésus l'avait instituée. Quelque chose reste à faire, et je prie de tout mon cœur pour que vous réfléchissiez à cette courte méditation. Peut-être me ferez-vous part de ce qu'elle a suscité en vous.
Alléluia, alléluia, alléluia.
Ce programme de méditation biblique vous a été offert par Jacques Marchal, qui vous l'a présenté. Et qui sommes-nous? Les chrétiens qui ne portent pas d'autres noms et ne sont rattachés ni à une organisation centrale ni à une secte quelconque. Notre unique règle de foi est surtout le Papa et le Nouveau Testament. Notre unique chef, Jésus-Christ, seul ses enseignements et ceux des apôtres, en totalité, parlons de ce que la Bible dit et de nous financer à propos de ce qu'elle ne dit pas. Faites-moi part de vos idées, de vos suggestions sur ce que vous venez d'entendre et je vous répondrai personnellement. Le texte de cette émission est à votre disposition sans engagement. Écrivez à Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cédex. Et je répète, Jacques Marchal, Méditation biblique, boîte postale 2398, 31086, Toulouse, Cédex, France. Au revoir. À la semaine prochaine, même heure. Et que le Seigneur vous garde.